Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Et voilà, c'est donc le moment de retrouver notre invité dans ce mag à la bonne heure. J'ai le plaisir de recevoir Daniel Berthet. Bonjour Daniel.
Bonjour Odile.
Alors on va parler de votre 10e roman, La magie du papillon. Mais peut-être avant, faire un petit rappel sur tout l'ensemble de vos livres. Ça fait déjà un moment donc, que vous écrivez, une retraite bien chargée de créativité.
Oui, j'ai commencé en 2010 à peu près. J'étais complètement amateur. C'était le premier roman que je faisais. Et puis, il se trouve que dans ma tête, il y a une prison qui s'est ouverte et l'imaginaire a pris la place du réel. Et donc, j'ai poursuivi ma recherche et c'est comme ça que j'ai écrit 10 romans. Et j'arrive au 10e avec justement le plaisir de traiter le rêve pour passer du malheur au bonheur, grâce à cet intermédiaire, un outil important. Et je suis d'autant plus content d'être ici, parce que j'ai entendu ce matin sur Fréquence Mistral, et j'ai vu sur le journal, qu'aux rencontres cinématographiques, on traitait justement le rêve à travers le cinéma. Alors ça m'a fait plaisir, parce que moi je traite le rêve à travers le roman.
Un beau hasard de traiter du même sujet.
Enfin. Et j'ai encore plus de plaisir parce que j'ai entendu que le titre de l'émission, c'est « À la bonne heure ».
Oui.
Moi, je retiens dans ce titre uniquement le mot « bonheur » en un seul mot. Parce que je pense que quand on est dans le malheur, on a envie d'aller vers le bonheur et le rêve est un des moyens d'aller dans le bonheur.
Bien, voilà une belle entrée en matière. Alors ce livre, La magie du papillon, donc on l'a bien compris, ça parle du rêve. Vous avez fait faire une préface par Patrice Saunier, c'est une habitude maintenant.
C'est une habitude et alors, je lui donne le livre que quand il est terminé pour qu'il découvre le thème. Et là-dessus, il prend quelques jours et il me dresse toujours des préfaces qui sont très très agréables à lire, dans lesquelles il y a toujours quelqu'un qui intervient, que vous devez connaître, qui est Arthur Rimbaud.
Ah, bien sûr, Arthur Rimbaud.
Donc, je rends hommage à Patrice pour ça et je le remercie beaucoup.
Donc, ce livre fait partie de la collection Les Foudres du Ciel et c'est le tome 4. Est-ce qu'on peut dire que c'est une suite ?
C'est pas une suite, ce sont 4 titres qui peuvent se lire de façon indépendante. C'est simplement que ces 4 ouvrages porte sur les guerres de religion au XVIe et au XVIIe siècle. Alors le premier ouvrage portait sur la première guerre de religion en 1561, et ça se déroule entre Fort-Calquier, Sisteron et Gap, et Grenoble. Le deuxième portait sur le procès des sorcières qui avait lieu à cette époque, donc j'ai traité d'un procès des sorcières. Le titre s'appelle « L'anneau de Saint-Jérôme ». Donc il y a bien entendu les églises qui interviennent, puisque dans les procès de sorcières, c'était souvent les curés qui étaient à la charge. Ensuite, le troisième porte cette fois-ci sur le XVIIe siècle, donc entre 1600 et 1630, 1640. Et il relate aussi les guerres de religion, mais cette fois-ci, c'est plus centré sur la Franche-Comté, parce que la Franche-Comté était à l'époque espagnole et Richelieu et Louis XIII voulaient récupérer la Franche-Comté. Il y a eu des bagarres très importantes et je raconte un petit peu, je place mes personnages dans cette situation. Ça se déroule à Digne et en Franche-Comté et à Paris aussi. Et le quatrième, c'est la magie du papillon.
Voilà, alors ça demande quand même un travail de recherche aux archives.
Tout à fait, il y a un travail de recherche historique au départ. Je prends un canevas historique, mais je ne cherche pas le détail historique parce que je risque de perdre mon imaginaire. Donc quand j'ai le canevas historique, je place mes personnages dans cette situation historique et je laisse un petit peu aller mon imaginaire pour pouvoir faire un roman et non pas faire un ouvrage historique.
Alors, est-ce qu'on peut parler de ces... C'est vrai que les prénoms, les prénoms utilisés sont des prénoms qu'on n'entend pas souvent à notre époque. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnages?
Alors, j'ai des prénoms qui sont un petit peu d'époque. Il y a Clermonde, on ne le retrouve pas tellement, c'est vrai. Il y a Ercilly, c'est vrai. Il y a Antonine, on le retrouve peut-être aujourd'hui quand même. Voilà, des prénoms effectivement qui sont un petit peu d'époque, ça me fait plaisir de retrouver aussi du vocabulaire de l'époque, des termes qu'on n'entend plus tellement. Par exemple, je pense le vertugadin, c'est un vêtement de femme de l'époque, vous savez, très large, là, qui met en évidence la robe de la femme. Voilà, des choses comme ça. Des injures aussi de l'époque, vertu Dieu, mort Dieu, des choses que j'aime bien.
C'est vrai que ça changerait, s'il y avait des conflits avec des noms comme ça, ça serait beaucoup plus amusant finalement.
Ce serait bien de revenir Oui, c'est original.
Donc un livre qui est séparé en quatre parties, avec des noms de couleurs, c'est le nom qui correspondent aux saisons.
C'est ça. J'ai voulu faire, alors je vais partir du début parce que c'est le début qui nous intéresse pour savoir comment je dirige le roman. Je suis parti de Antonine, une petite fille de 13 ans, qui vient de perdre ses deux aïeules, sa grand-mère et puis sa marraine. Sa marraine étant justement le personnage principal du roman précédent. Et donc ça se passe en 1670, elle perd ses deux aïeules, elle est au cimetière de Digne au bourg, elle prie, elle pleure, elle est toute seule, et ça fait quelques semaines seulement qu'elle a perdu ses deux aïeules du fait de la canicule, et elle prie la Vierge Marie pour essayer de trouver une aide. La Vierge Marie ne lui répond pas, mais par contre, elle entend une voix. Et cette voix, elle découvre que c'est celle d'un papillon bleu qui s'appelle Morpho, et donc qui vient d'ailleurs, et qui lui parle, et qui lui dit que si elle veut trouver une solution à sa peine, eh bien, il va falloir qu'elle grimpe dans ses ailes, qu'elle se laisse emporter, et puis qu'elle découvre le rêve et l'imaginaire. Et Antonine lui dit, mais moi, je ne peux pas découvrir le rêve, c'est impossible, j'ai trop de chagrin. Et il lui dit justement que c'est ce rêve, cet imaginaire, cette poésie qui vont lui permettre de sortir de son malheur et de retrouver le bonheur. Et j'ai toujours considéré, moi pour ma part, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai toujours considéré que le deuil durait quatre saisons. Les quatre saisons de l'année pendant lesquelles on se souvient de la saison précédente, de la saison de l'année précédente, avec la personne qu'on vient de perdre. Et on a du chagrin pour ça. Et puis, au bout de quatre saisons, on retrouve de nouvelles saisons. Et cette fois-ci, on a des souvenirs de l'année précédente qui fait qu'on peut oublier un petit peu la personne qu'on a chérie. Donc, c'est pour ça que je traite le deuil sur quatre saisons. Quatre saisons dans lesquelles j'emmène Antonine, la petite fille, dans le rêve, dans le passé, avec quelquefois de l'imaginaire qui est positif, et quelquefois de l'histoire qui est tragique. Et c'est pour ça que je parle de l'automne rouge, rouge sanglant, c'est parce que je reviens sur la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572. Et ensuite, je parle de l'hiver solitaire, le blanc royal, où je parle de princesses donc qui permettent de sortir un petit peu de la tristesse. Et puis ensuite, le bonheur, le vert galant au printemps. Dernière étape qui permet à Antonine de retourner au cimetière sans avoir à prier la Vierge Marie, mais simplement en se réfugiant dans le rêve. Une belle leçon de vie pour faire face à l'avenir. Voilà.
Moi, j'aurais envie que vous lisiez quelques extraits. Est-ce que c'est possible ou pas?
C'est possible, à condition que je mette mes lunettes.
Oui, on peut vous laisser ce temps.
Et que je vous explique un petit peu. Justement, Antonine a rencontré le papillon qui lui parle, qui lui raconte une histoire. Elle a rencontré aussi le grand chêne, un grand arbre majestueux qui est un ancien depuis plusieurs siècles, qui lui a raconté aussi une histoire sur les Templiers, sur leurs trésors cachés autour de Manosque. Et puis ensuite, elle a rencontré le coquelicot, parce que je prends la couleur qui correspond aussi au thème abordé. Et le coquelicot est rouge et il a parlé de, justement, les nuits sanglantes de la Saint-Barthélemy. Et puis ensuite, elle a rencontré le papillon blanc, qui lui raconte des histoires de princesses. Et enfin, elle rencontre la sauterelle, qui est verte, en retournant au cimetière. Elle rencontre la sauterelle sur la tombe de sa grand-mère. Et elle va avoir une discussion avec la sauterelle. Et elle lui demande un petit peu comment elle, la sauterelle, elle fait pour rêver en étant prise dans les ronces du cimetière. Alors c'est cette conversation que j'aimerais lire qui donne un petit peu la méthode pour rêver. Alors, Antonine demande à la sauterelle, et comment fait-on pour rêver lorsqu'on côtoie tous les jours des ronces sans pitié, des croix de noirs vêtus et des âmes défuntes qui pleurent le passé? Et la sauterelle répond, la rencontre du papillon a dû t'apprendre qu'il faut faire preuve d'une profonde humilité et d'une grande patience pour fuir le réel. Retenu entre les pattes d'une sauterelle ou accroché aux ailes d'un papillon, la démarche est la même si tu veux apprivoiser le rêve. Tu commences par retenir ton souffle, tu fermes les yeux, tu oublies la réalité, le cimetière, ses tombes, ses enterrements et les larmes qui les accompagnent. Puis, tu prends lentement ton envol en méditant sur la philosophie du temps qui passe. Perché sur le haut des branches d'un arbre géant ou caché entre deux ronces, lorsque, entre deux nuages, un voile de rêve passe à ta portée, tu te mets à l'affût en l'observant silencieusement comme tu le ferais à la vue d'un animal sauvage. Il se peut alors que l'imaginaire prenne forme et, en toute innocence, s'avance lentement dans les profondeurs de ton âme. N'oublie pas de lui offrir la plus belle des révérences, celle de la poésie. Alors, si tu as un peu de chance, le rêve t'ouvrira les portes de son univers et tu pourras te glisser dans le labyrinthe de l'illusion. Voilà le moyen de rêver et de s'évader un petit peu du réel.
Et on en a bien besoin chaque jour.
Je
de
crois.
S'évader dans le rêve quand la réalité est trop difficile. Heureusement qu'on a encore le rêve et l'espoir.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est un refuge qui permet de faire face au malheur et puis à la réalité du monde aussi, qui est plutôt triste.
Vous parlez beaucoup de religion dans vos livres. Est-ce que vous êtes athée ou...
Je suis ou pas. J'ai été élevé dans la religion catholique, mais je m'en suis retiré un petit peu parce que quand on lit ce qui s'est passé comme massacre entre les religions pour des histoires uniquement de croyances.
Et qui continue, en fait.
Et qui continue, bien entendu. C'est, je fais toujours le rapprochement de ce qui s'est passé dans le passé et puis ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'on peut être croyant sans être dans une pratique religieuse. C'est le mieux. De toute façon, concernant l'existence de Dieu, on peut l'affirmer et le croire, on peut le nier et le croire, mais on n'est jamais certain de notre savoir. Donc, prenons un point d'interrogation et puis attendons.
Daniel Berthet, donc la magie du papillon. On rappelle que vous allez aussi faire partie, vous allez Malmoisson le 20
c'est-à-dire
novembre.
Ce mercredi.
Ah, c'est déjà
oui,
presque
c'est
là.
Mercredi.
À Malmoisson,
oui.
Donc c'est.
Non, c'est une rencontre avec les lecteurs à la médiathèque de Malmoisson. Les responsables de la médiathèque m'ont invité pour me dire, ce serait bien que vous rencontriez les lecteurs un mercredi après-midi. Donc j'ai accepté et je serai à Malmoisson mercredi. De 14h30 à 17h.
D'accord. Et à Digne, c'est pas encore.
À Digne, j'ai pas eu de contact avec la médiathèque pour le moment parce que c'est assez difficile de trouver un moment pour pouvoir parler d'un livre. Donc le programme est assez chargé à la médiathèque.
D'accord. On a encore du temps, hein. On a encore du temps pour parler de ce livre, La magie du papillon, Daniel Berthet. Le rêve est évidemment indispensable.
C'est la démonstration de mon livre.
Voilà.
Sans être scientifique. Parce que j'ai entendu qu'aux rencontres cinématographiques, il y aurait des conférences très sérieuses sur le rêve et sur le rapport avec le cinéma. En ce qui me concerne, je suis beaucoup plus modeste que ça. Je cherche juste à apporter à quelqu'un qui aurait un petit peu l'envie de se distraire, de trouver une solution pour aller vers le rêve et quitter un petit peu la réalité quand elle est trop triste.
Un livre qui se termine bien ?
Ça se termine très bien, oui, puisque Antonine retourne justement une année après, elle retourne sur le cimetière de Digne et puis elle a trouvé les solutions grâce aux animaux qu'elle a rencontrés, aux insectes, les papillons, la sauterelle, les arbres aussi, le rossignol et puis le coquelicot. Toutes ces merveilles de la nature lui ont parlé et c'est là qu'elle s'aperçoit qu'en fait elle vit dans un milieu extraordinaire et qu'elle est entourée de personnages, peut-on dire, extraordinaires, que ce soit la vue de la montagne, le ciel, le soleil, les étoiles et tout ça, les plantes, et qu'elle peut parler à tout ça et qu'elle peut avoir des échanges et que justement ça lui permet d'oublier le malheur et que ses aïeuls, à travers tout cela, lui disent « Eh bien, maintenant, c'est à toi de continuer de vivre et puis de faire face à la réalité. »
Voilà. Aussi, donc, la nature, c'est vrai que c'est aussi le secret de se reconnecter un petit peu aux beautés de la nature et d'en prendre soin.
Je suis content de vous l'entendre dire. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'on est en train de massacrer sur le plan de l'humanité. C'est atroce ce qu'on fait à la nature actuellement et qu'on va encore faire encore plus, j'ai l'impression. Et qu'on va sûrement aller vers une destruction de l'humanité par elle-même, parce que par ses fautes. Parce qu'on a une nature, une terre qui est extraordinaire. Alors je ne sais pas si c'est un dieu qui l'a créée ou si c'est un effet du hasard. Ça, on peut en discuter longtemps. Je crois plutôt que c'est un effet du hasard, mais ça c'est mon problème. Mais je pense que c'est une merveille. La planète Terre est une merveille et on est en train de la détruire. Ça me fait mal au cœur, oui. Et c'est pour ça que des livres comme ça, ça me permet de m'évader un petit peu et de voir autre chose dans l'imaginaire.
Est-ce que vous avez déjà prévu une suite encore à cette histoire ?
Non, parce que les livres viennent l'un après l'autre. Là, je ne pensais pas du tout au départ faire une suite. D'ailleurs, ce n'est pas tellement une suite. C'est la même période qui est traitée sous plusieurs aspects. Mais je ne pensais pas faire une suite au départ. Il y a des personnages qui se retrouvent d'un livre à l'autre, mais on peut les lire de manière indépendante. Par contre, chaque fois que j'ai envie d'écrire, c'est toujours sur le passé et c'est toujours pour faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et en me disant mais ça se répète sans arrêt. La guerre, c'est quelque chose d'universel, je crois, et quelque chose qui se prolonge toujours dans le temps, ce qui est vraiment dommage. Et on est bien parti aussi là pour avoir des situations de guerre qui sont catastrophiques. Donc je ne suis pas dans la science-fiction, je suis vraiment dans le passé et je fais toujours un lien avec l'histoire. Mais je disais tout à l'heure, j'ai un canevas historique, mais ensuite je vais laisser un petit peu la place à l'imaginaire de telle manière que je puisse placer mes personnages là-dedans. Et même si je tords un peu la grande histoire, tant pis, je préfère laisser courir mon imaginaire. C'est pour ça que j'ai déjà fait un livre qui portait sur la guerre d'Algérie. J'ai fait un livre qui porte sur la situation de Gaza aussi. J'ai fait un livre qui porte sur la Grande Guerre de 14-18. Et j'ai fait un livre aussi sur la révolte des Basses-Alpes lors du coup d'État de 1851 avec Napoléon III. Voilà un petit peu. Donc c'est chaque fois un thème historique. Mais j'amène là-dedans mon propre imaginaire. Alors bien entendu, les historiens ne s'y retrouvent pas toujours, mais ce n'est pas destiné à faire lire aux historiens.
Est-ce que vous avez envie de dire deux mots sur... Je sais que vous faites partie, bien sûr, de l'association France-Palestine Solidarité. Est-ce que vous avez envie d'en parler ?
Oui, parce que je dois dire que chaque livre, comme c'est un livre, un travail d'amateur, je ne suis pas un écrivain professionnel, donc pour chaque livre, j'essaie d'être solidaire avec une cause sociale. Et donc, je l'ai été avec le Secours Populaire, je l'ai été avec le Téléthon, et j'ai été aussi avec d'autres associations. Et là, je suis souvent, ça fait mes deux derniers livres, celui-là, que je suis solidaire avec l'association France-Palestine Solidarité pour verser un symbole, c'est symbolique, mais juste une petite participation à une association qui s'appelle SOS Palestine, qui intervient dans les situations d'urgence en Palestine. Et Dieu sait ce qui se passe maintenant en Palestine. Donc, je fais partie de cette association. J'ai contribué à la créer il y a une vingtaine d'années. Et depuis, effectivement, on essaie d'informer sur la réalité du peuple palestinien. Et parce qu'on estime que dans les médias, ce n'est pas vu d'une manière très, très objective. Donc, on fait ce travail de militant et j'apporte un petit peu mon soutien personnel en disant les ventes que je fais sur ces livres, une partie du bénéfice des droits d'auteur va à cette association ou à d'autres. C'est pour ça que la maison d'édition s'appelle Carrière B édition, mais c'est ajouté dessous le livre solidaire.
Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Le livre solidaire, c'est depuis toujours.
Depuis le début.
Voilà, depuis le début, une belle initiative solidaire.
Et grâce à l'auto-édition.
Oui.
Parce que si j'étais édité chez un éditeur, bien entendu, j'aurais droit qu'à un droit d'auteur, un reversement s'il a lieu, de 7-8% à peu près du prix de vente. Donc sur un livre de 15 euros, ça doit faire 1 euro ou 1 euro 20. Donc à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on va faire de la solidarité. C'est pour ça que l'auto-édition me permet ça, en sachant, bien entendu, en étant modeste, en sachant que le tirage est très faible. Mais mon objectif, ce n'est pas d'être reconnu comme un écrivain. Ça ne m'intéresse pas tellement. C'est plus de faire un travail d'écriture, de partir un peu dans le rêve, dans l'imaginaire. Et puis ensuite, de dire, bon, ben, si je gagne quelque chose, je le reverse à une association. Voilà.
Daniel Berthet, donc on peut commander votre livre. Donc on vous retrouvera le 20 novembre, qui est
mercredi. C'est dans 2 jours.
Dans 2 jours. Le 20 novembre à Malmoisson.
À la médiathèque
de Malmoisson.
14h30, 17h.
Voilà. Où donc vous pourrez dédicacer vos livres éventuellement ce jour-là.
Et discuter avec les lecteurs surtout.
Voilà, c'est ça.
Ou les futurs lecteurs.
et sinon, on peut vous le commander. Il faut aller sur votre site.
Il se trouve aussi en librairie à Digne.
D'accord.
Et autrement, on peut le commander sur mon site. J'ai un site qui s'appelle danielberthet.com où on retrouve tous mes ouvrages avec une petite boutique où on peut les commander.
Merci. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que Sarah, tu veux intervenir?
Moi, ce qui m'intéresse souvent quand je rencontre des auteurs et des autrices, c'est de savoir quel est le processus d'écriture qui vous amène à... Enfin, voilà, est-ce que vous commencez parce que vous avez un sujet historique qui vous passionne et du coup, vous creusez là-dedans et ça vous sert pour votre imaginaire? Ou comment est-ce que vous écrivez, en fait, quel temps ça prend? Voilà.
Moi, j'ai... maintenant, ça fait 10e roman, donc je commence à avoir un peu d'expérience. Et au début, je ne me sentais pas du tout dans l'esprit écrivain. C'est au fur et à mesure que j'ai ressenti ce besoin d'écrire que j'ai compris quelques mécaniques d'écriture. Et je sais que je procède toujours de la même façon. C'est que le roman que je vais faire plus tard, il est au fond de mes tripes depuis un certain temps, longtemps, plusieurs années des fois. Et il remonte un petit peu en surface, petit à petit, et quand vient le moment de l'écrire, je le sais parce que je suis en train d'avoir cette démarche avec mon prochain roman, si réussit, à ce moment-là, je compare toujours l'écriture d'un roman avec une grossesse d'une future maman. Parce que le roman, il est à soi, personnel, dans un premier temps, et on va le faire mûrir. Alors on ne sait jamais si on ne va pas faire une fausse couche, parce que c'est très long. C'est un travail pour moi, c'est un travail sur un roman. Je ne parle pas de ce qui est au fond de mes tripes et qui a duré plusieurs années peut-être, mais quand il commence à prendre un petit peu forme, quand il a été un peu conçu et que je dois le porter à terme, ça me prend à peu près 2 ans. Donc, dans ce travail, après avoir l'idée de ce que je vais faire, du thème général, je fais des recherches historiques. Ça, c'est important de savoir sur quelle base on s'appuie. Et quand j'ai un peu un canevas historique, à ce moment-là, je recherche les romans qui ont traité de cette période. Et là, je lis beaucoup de romans parce que eux, je sais qu'ils ne sont pas dans le détail historique. Ils sont plus dans la création et dans l'intégration d'un personnage ou deux personnages dans cet historique. Alors ça me plaît beaucoup parce que là, je vois ce qu'ils ont fait. Et ça m'inspire, ça me donne des... J'ai déjà ma propre idée de la construction de mon roman est toujours différente des romans que je lis. Mais il m'apporte des idées aussi pour traiter certains aspects. Et donc, c'est un plus. C'est pas du tout du plagiat. Je déteste reprendre quelque chose qui a été écrit. Mais par contre, il m'apporte des idées. Et donc, ça, c'est un travail assez long. Je n'ai pas encore écrit un seul mot. Hein. Ça peut durer le temps que je trouve des romans. Donc, je me nourris de ça. Et un jour, je dis, bon, ben, il faut y aller. Et là, je prends la plume et je prends la page blanche. Et là, commence quelque chose de très, très difficile. C'est le premier chapitre, parce que le premier chapitre, c'est un petit peu la base de construction du roman. Et là, je le reprends, je travaille là-dessus, c'est énorme. Des fois, je prends 3 mois pour écrire le premier chapitre, parce que ça va engager tout le reste. Et il y a une question d'état d'esprit, une question de style. Et ça, c'est une fois que j'ai passé le premier chapitre, je sais que je vais pouvoir construire le roman et c'est plus facile après. Mais ce premier chapitre, c'est un petit peu la crainte de la page blanche. Quand on n'écrit pas, on se dit mais comment faire pour écrire et imaginer quelque chose. Sauf que quand on le lit, on se dit oui, bon, ben, il a écrit. Mais avant qu'il écrive, il y a beaucoup de travail personnel qui est antérieur. Et ça, c'est pas facile. Moi, je viens pas du tout du monde de l'écriture, de la littérature.
Plutôt les calculs.
J'étais dans les calculs, dans les chiffres. J'étais prof de comptabilité, de fiscalité. Donc, alors là, tout ce qui est imaginaire, c'était complètement à côté. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais de l'imagination. L'école m'a fermé complètement l'imaginaire. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ont envie d'aller vers l'imaginaire. Moi, c'était le contraire. J'étais le bon élève, tranquille. J'assurais ce qu'on me demandait. Et j'ai fermé complètement l'imaginaire. Et un jour, pas loin de la retraite, j'ai réussi à faire sauter cette porte de prison de l'imaginaire. Et je me suis rendu compte, après le premier roman, qu'il y avait plein de choses, plein de richesses dans cette zone de l'imaginaire, dans mon cerveau. Et j'ai dit, mais il faut que j'aille puiser là-dedans, parce que c'est du rêve, on voit le monde d'une autre manière. Donc voilà, tout ça, ça a germé petit à petit. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout écrivain, mais je me sens l'esprit de l'écrivain. C'est différent. J'ai pas du tout envie de vendre mes bouquins, mais par contre, d'écrire encore des romans, oui, ça, je me sens capable de le faire. Voilà la solution. C'est un long travail.
Vous n'avez pas du tout une idée de la structure ou de comment ça va finir, ou enfin voilà, quand vous entamez une écriture.
Alors parce que comme je suis comptable et que je suis logique, j'ai toujours construit mes romans en 4 parties. Déjà, comme ça, je me dis, je vais faire 4 parties, à peu près 50 pages ou 50 ou 60 pages sur chaque partie. Ça me fera 200, 230 pages. Ça fera un roman. Donc, il faut que je trouve les thèmes de ces 4 parties. Donc, tout ça, c'est le travail avant l'écriture, avant le premier mot écrit du premier paragraphe. Et quand j'ai ces 4 parties, que je vois que ça peut se construire, mais je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, mais je vois que ça peut faire effectivement la construction d'un roman, à ce moment-là, je vais me lancer dans le premier chapitre, et puis je m'aperçois que... d'un mois à l'autre, d'une écriture à l'autre, mais mes 4 parties, elles vont évoluer. Il y aura toujours 4 parties, mais ça va évoluer. Les personnages que je rencontrerai à l'intérieur seront différents. Parce que quand on écrit, il y a ça, je ne sais pas si vous le faites, mais il y a quelque chose de formidable, c'est que les personnages vous mènent à la baguette. quand vous voulez traiter un personnage d'une manière, il y a des fois j'ai l'impression de me réveiller la nuit et que le personnage me dit mais là t'es fou, faut pas faire comme ça, faut faire autrement, j'ai pas ce caractère là. Donc on vit avec ces personnages. Ah, ça c'est quelque chose de formidable. Une fois qu'on est dans le roman, le plaisir de l'écriture, c'est quelque chose d'agréable parce qu'on passe dans un autre monde, on rêve.
Daniel Berthet, merci. Sarah Monti, merci de participation aussi, être présente donc pour notre invité du jour. Et puis Sarah, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour la chronique littérature jeunesse. Merci. Daniel, voilà, on vous retrouve le 20 novembre dans deux jours, mercredi, à la médiathèque de Malmoisson. Et puis que les gens n'hésitent pas non seulement aller à votre rencontre, mais aussi de venir, d'aller voir sur votre site.
Voilà, d'aller voir sur le site danielberthet.com.
Tous les ouvrages que vous avez faits. Ouais. Merci beaucoup, à très
merci,
bientôt.
Odile.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le MAG Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.